Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
Le poète, écrivain et cinéaste iranien Bakhtash Abtin est mort du coronavirus dans un hôpital de Téhéran samedi dernier. Auteur de plusieurs recueils de poésie, Bakhtash Abtin avait signé en 2019 un ouvrage qui revenait sur l'histoire de l'association des écrivains iraniens, provoquant l'ire des autorités en raison de l'évocation de certains faits et événements. Nous évoquons cette figure disparue de la protestation populaire iranienne avec un autre poète, Reza Espili, réfugié en France. En seconde partie d'émission, nous lirons les grands titres de la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Le poète iranien Reza Espili est avec nous en studio. Bonjour Reza Espili.
Bonjour Éric Bataillon.
Votre compatriote poète et cinéaste Bakhtash Abtin est mort en prison à la fin de la semaine dernière, samedi. Après y avoir contracté le Covid-19, il avait été condamné en 2019 pour rassemblement et collusion contre la sécurité nationale et pour propagande contre le système. Il avait commencé à purger sa peine à la prison d'Evin à Téhéran en 2020. Reza Espili, qu'est-ce que ce décès vous inspire ?
Ce décès, avant tout, m'inspire sur la lutte quotidienne que les écrivains en Iran font. Parce que dans un pays comme l'Iran, géré par un dictateur, dans toutes les activités culturelles et artistiques, il y a une censure. Automatiquement, toutes les activités artistiques, ça devient politique. Parce que vous êtes en face de vous qui vous censure ou qui vous subissent des autocensures, ça vous oblige de faire une activité politique. Donc Bakhtash Abtin, c'était quelqu'un, à mon avis, exemplaire, parce que lui... Il en parle quand il était en liberté dehors de prison. Il dit que, parce qu'avant il était allé en prison aussi, il avait beaucoup de problèmes. Il dit que mes amis, ils me disent que vas-y, tu peux aller à l'étranger, tu peux faire tes films à l'étranger, tu peux écrire à l'étranger. Pour toi, il y a beaucoup de possibilités parce que maintenant tu es connu, tu es déjà allé à la prison, tu es membre de l'association des écrivains en Iran, Kanun Nevisandegan en Iran. Donc, tu peux y aller. Mais là, il dit que moi, je crois qu'il faut rester parce que je sais que je peux y aller, mais pour moi, ce qui est important, c'est de lutter contre censure et rester sur la place et battre contre censure.
Alors, diverses ONG, dont Reporters sans frontières, le Centre pour les droits humains en Iran, basé à New York, mettent en cause directement les autorités iraniennes. Selon vous, est-ce que ce décès aurait pu être évité ?
Bien évidemment, il aurait pu éviter, bien sûr, parce qu'il... Il avait Covid et ils ont condamné Bakhtash Abtin avec deux autres écrivains, Reza Khandan Mahabadi et Keivan Bajan, également membres de l'association des écrivains en Iran. Ils l'ont condamné au moment que Covid ça se propageait en Iran et Iran, même aujourd'hui, c'est un foyer de cette maladie. Donc on peut imaginer que dans un état de dictature, même ils ne peuvent pas très bien gérer la pandémie. Donc ils ont été vraiment, au moment de Covid, au moment de propagation de Covid, condamnés à la prison. Ils ont allé à la prison. Une fois Bakhtash Abtin, il avait Covid, il a guéri. Cette deuxième fois, il avait Covid, c'était pire en pire. Et les autorités de la prison, ils ont sorti de prison pendant 11 jours dans un hôpital qui est lié à la prison, sans rien dire à personne. Donc, pendant ces 11 jours, la famille, ils ne savaient pas où il est, et ses camarades de cellule de prison, l'autre prisonnier politique, ils ne savaient pas Bakhtash, il est où. Et après 11 jours, sa maladie a beaucoup augmenté, c'était très très grave, ils ont laissé que la famille, il le prend et lui transférait dans un autre hôpital, mais c'était très très tard.
C'était trop tard. Vous parlez de l'association des écrivains d'Iran, c'est une association qui est très ancienne, qui est indépendante du pouvoir.
Totalement.
Et à laquelle vous avez participé vous-même.
Exactement. Quand j'étais en Iran, j'étais un membre de cette association, donc c'est une association indépendante. Ce principe, c'est que cette association, il conteste censure à toutes les formes. Donc il n'accepte pas du tout aucun borne, aucun censure dans la littérature. Donc c'est une association qui a, dans cette histoire, la plupart des grands intellectuels et écrivains iraniens étaient membres. Même à l'époque de Shah, avant la révolution, Même après la Révolution, ça se définit comme une association des écrivains et des intellectuels critiques de pouvoir, quel qu'il en soit.
Bakhtash Abtin en faisait partie donc de oui. cette association. C'était quelqu'un d'actif dans cette association et donc qui se servait aussi de cette association pour porter des revendications contre les autorités d'aujourd'hui.
Exactement, c'était comme ça, absolument. Il était quelqu'un de très actif, très très actif. Moi, personnellement, je ne connaissais pas très bien Bakhtash. J'étais membre, il y a 11 ans, quand je voulais partir, venir en France, il venait d'être membre.
Il y a d'autres écrivains et d'autres poètes qui sont encore en prison aujourd'hui de cette association?
Oui, de cette association. Il y a 3 autres écrivains qui sont en prison, Reza Khandan et Mahabodi, qui a Covid également. Moi, en tant qu'ex-membre de cette association et un écrivain, je veux demander à tous les associations internationales qui aident les écrivains ou les associations de droits de l'homme qu'on fasse quelque chose pour lui immédiatement parce que lui, il a Covid. Il est maintenant dans prison, mais il faut qu'il rentre. Et je crois que l'État, en fait, il fait tout pour qu'il meure aussi parce que, en fait, toute l'histoire de l'après-révolution dans l'Iran, ça montre très clairement que pendant les années 2000, il y avait des séries d'assassinats des écrivains en Iran. Maintenant, ils ne font pas comme ça parce que tout est maintenant, tout le monde sait, ils font autre façon. Donc, quand ils voient qu'un écrivain, un protestant est malade en prison, ils le laissent crever. Mmh. Et ça, c'est sûr et certain, tout le monde sait. Donc, vraiment, je crois que c'est très important de pouvoir, si on peut faire quelque chose, qu'il ne rentre pas à la prison. Reza Khandan et Mahabodi. Également, il y a 2 autres membres, Kayvan et Bojan et Arash Ganji.
Quel est l'apport de Bakhtash Abtin à la culture persane d'aujourd'hui moderne?
Moi, je crois que Bakhtash Abtin, il était un poète, il était un cinéaste. Mais au-delà de ça, je crois que ce qu'il a apporté, c'est la culture de lutte, la culture de battre contre les dictatures qui est armée jusqu'aux dents. L'État iranien, il est en train de faire guerre contre le peuple iranien. Je crois que vraiment, actuellement, il y a une guerre civile en Iran. Donc, il y a un État qui est contre son propre peuple. Donc, l'importance de quelqu'un comme Bakhtash Abtin, qui dit que moi, je reste ici, je sais que je vais donner ma vie pour la liberté, pour la lutte, je crois que c'est très important. Ça donne un bon exemple pour pouvoir lutter et continuer. On a le peuple iranien, il n'y a rien contre ce gouvernement qui est armé jusqu'aux dents, sauf sa culture.
Vous-même, Reza Espili, vous avez traduit en persan des textes de Voltaire, de Trotsky, de Che Guevara, oui. et aussi de l'écrivain révolutionnaire et anticolonialiste Daniel Guérin.
Oui.
En quoi est-ce important d'offrir ces traductions aux lecteurs iraniens aujourd'hui?
Moi, j'ai commencé par Voltaire, quand j'ai traduit Candide de Voltaire. Tout d'abord, j'avais un peu lu sur Candide, sur Voltaire, l'histoire philosophique de la France. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai traduit Candide de Voltaire. Mais ce livre, il restait 5 ans dans le bureau de censure de l'Iran. Parce qu'il faut savoir qu'en Iran, il y a censure avant publication des livres. En Iran, dans toutes les activités artistiques et culturelles, l'État il exerce une censure avant. Donc, par exemple, dans le théâtre, si vous voulez faire un théâtre, vous allez préparer un théâtre pendant des mois avec une équipe comme ça, il faut vraiment un jury de censure qui ne connaisse rien de théâtre, en fait. Vient voir votre pièce et si c'est contre certains principes islamiques selon eux de charia, ils ne vous laissent pas faire votre théâtre alors que vous avez déjà travaillé 6 mois avec une équipe. C'est exactement la même chose avec publication d'un livre ou traduction. Moi, j'ai traduit un livre, ça m'a coûté 6 mois de ma vie. Et là, il restait 5 ans dans le bureau de censure.
Mais aujourd'hui, il est publié?
Bien sûr. Après qu'il était publié, il était un peu censuré. Moi, je ne savais pas. La maison d'édition, il ne m'a pas dit. Donc, voilà, ils ont publié. Donc, moi, je me suis tourné vers les livres de sciences humaines, sciences politiques. Et les livres que j'ai traduits, que je crois que, humblement, mais je crois que pour mon peuple, c'était important. Donc, c'était les livres sur le fascisme, parce que je crois qu'en Iran, on est un État qui a certains éléments de fascisme, alors qu'il a ses propres caractéristiques d'un État religieux. Donc, j'ai traduit 2 livres sur ce fascisme. Donc, le livre de Daniel Guérin, « Fascisme et grand capital », qui est un livre classique sur ce sujet et que c'est très important. Et aussi un autre livre sur fascisme de Léon Trotsky.
On connaît l'appétence des Iraniens pour le poème, et pas seulement les grands poètes anciens comme Khayyam, Hafez, Rumi ou Saadi. Y a-t-il aujourd'hui une production poétique émergente en Iran?
Oui. En fait, la poésie, il ne nous lâche jamais. On peut peut-être dire comme ça. Et nous aussi, on ne lâche jamais la poésie. Je crois que, surtout en ce moment, on subit vraiment un état qui est contre notre culture, qui est très difficile pour nous. Je crois qu'il y a vraiment, depuis la révolution, dans les années 80, après 90, maintenant 2000-2010, à chaque génération, il y a vraiment un mouvement de poésie qui sort. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais au-delà de ça, ça montre que, en fait, le peuple iranien, à travers la poésie, ils montrent leur envie de continuité culturelle, alors qu'on subisse vraiment les moments très, très difficiles.
Et ça, les mollahs apprécient ?
Pas du tout. Ça, c'est sûr, certains qui ne l'apprécient pas. Mais en même temps, parce que c'est tellement ancré dans la culture qu'ils ne peuvent pas être contre, parce que vraiment, poésie, c'est dans notre culture. Pour vous dire que dans toute l'histoire de l'Iran, même les philosophes écrivent leurs pensées philosophiques en poésie. Donc, peut-être que ce n'est pas très, très bien, parce que philosophie, c'est philosophie, poésie, c'est poésie. On peut, par exemple, voir dans Khayyam, qui est un grand mathématicien, qu'il a fait la mathématique dans la poésie. Par exemple, les quatrains, c'est une forme. Je peux vous montrer que c'est une forme géométrique. Et donc, c'est un grand géomètre. Quand il fait la poésie, il utilise... Alors que normalement, on dit qu'il y a une pensée scientifique, c'est loin de pensée poétique. Vous voyez, donc vraiment, c'est un peuple comme ça. Dans notre culture, c'est très ancré, en fait.
Reza Espili, vous animez un site internet, rousgar.com, en persan et en français. Quel est l'objectif de ce site? Je crois aussi que vous avez édité à une certaine époque un mensuel.
Oui, le site que j'ai, rousgar.com, le premier principe de ce site, c'est lutter contre la censure. Pour nous, c'est très important. Moi, je crois que la première chose qu'un écrivain en Iran voit face de soi, c'est la censure. Donc la première lutte pour nous dans ce site, c'est lutter contre la censure. Et on peut voir qu'il y a plusieurs articles qui ne sont pas été publiés en Iran. Donc là, on est vraiment ouvert pour tous les écrivains, toutes les écritures, tous les articles et même les livres qui ont été censurés. J'ai traduit un livre de Chomsky, Noam Chomsky et Gilbert Achkar, et sur le rôle des États-Unis au Moyen-Orient. Il était totalement censuré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout ça sur un site internet.
Voilà donc pour rousgar.com, votre site internet, et le mensuel que vous aviez lancé.
Oui, c'était un mensuel qui s'appelait Nardeno, la nouvelle critique. On a lancé ce mensuel pendant les années 2000 en Iran. Et donc, après 3 ans, c'était censuré parce que c'était un mensuel de gauche. On a abordé les sujets, notamment contre la censure. Et le sujet, par exemple, les assassinats de série des écrivains en Iran, nul autre mensuel ou journal, il en parlait à l'époque surtout. Donc, après 3 ans, donc, le ministre de la culture et guidance islamique, qui est le responsable de censure en Iran, il nous a dit que non, vous ne pouvez pas continuer, donc c'était totalement censuré.
Merci Reza Espili.
Merci Eric Bataillon.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, vous avez noté cette semaine de nombreuses attaques dans la presse arabe contre l'Iran.
Oui, et ça commence en fait par le Liban où, selon la presse, s'est formé le Conseil national pour se débarrasser de l'occupation iranienne. Alors un conseil qui cherche des soutiens auprès de toutes les factions politiques, des communautés religieuses et associations diverses pour combattre ce qu'il appelle l'occupation iranienne du pays et de son bras armé libanais, le Hezbollah. Pour l'instant, indiquent les journaux, la plupart des factions libanaises restent prudentes et attendent de voir si le mouvement va prendre au niveau populaire et transformer le ras-le-bol anti-État libanais en colère anti-Hezbollah. Autre pays dont les journaux attaquent l'Iran, l'Arabie Saoudite. Selon Riyad, Téhéran chercherait à déstabiliser le royaume saoudien par le biais d'agents qu'il recrute dans les milieux chiites d'Arabie pour les former dans les camps iraniens en Syrie au sabotage et au terrorisme. Au Caire, le secrétaire général de la Ligue arabe a dénoncé la prise au large du Yémen des navires émiriens par les milices houthis soutenues par l'Iran. un acte de piraterie qui menace la navigation en mer Rouge et donc le canal de Suez, mettent en garde des éditorialistes.
Alors on reparlera de l'Iran avec vous tout à l'heure, Michel Paul, mais cette semaine a été marquée en Israël par de violents affrontements dans le sud du pays entre Bédouins et forces de l'ordre, et cela autour de la plantation d'arbres dans le désert.
Tempête dans le sud, le désert sous haute tension, titre plusieurs quotidiens. Attention, met en garde de son côté Haaretz, le journal de gauche. Si le gouvernement ne se ressaisit pas au plus vite, eh bien, il risque de perdre le contrôle de cette crise dans le désert du Negev. Il ne s'agit pas de plantation, affirme encore le journal dans un éditorial virulent, mais bien d'une politique de la terre brûlée. Le sujet est complexe. Le Fonds national juif, qui détient une grande partie des terres en Israël, a entrepris le boisement de certaines régions de ce désert, une façon de marquer la souveraineté sur ce secteur. Quelques 250 000 Bédouins vivent dans le Negev, pour la plupart sédentarisés dans plusieurs localités, mais nombre d'entre eux se trouvent dans des villages non reconnus par les autorités israéliennes. Ils craignent que la politique de boisement ne mène en fin de compte à leur expulsion. Là-dessus se greffe l'aspect politique de l'affaire. Le parti islamique Ram, dont les électeurs sont en grande partie des Bédouins, menace la coalition. Et l'opposition de droite tente d'attiser l'aile nationaliste du gouvernement. À suivre donc.
Alexandre, la pandémie du coronavirus serait en fort rebond dans le monde arabe, selon vos journaux.
Oui, et en dehors de pays qui sont en fait en état de guerre civile, comme la Libye et la Syrie, qui affirment que le virus recule chez eux, en tous les cas, tous les pays arabes ont enregistré une hausse substantielle des nouveaux cas en termes hebdomadaires. Alors il y a les pays du Golfe qui sont les plus touchés, plus 194% au Koweït, 183% à Oman, 155% au Qatar, 130% en Arabie et 94% au Bahreïn. Les Émirats qui ont vacciné massivement sont les seuls à indiquer que les nouveaux cas n'ont augmenté que de 2% par rapport à la semaine dernière. L'Irak, quant à lui, est à plus 277%, la Tunisie 164%, le Maroc 87% et l'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, indique lui n'avoir que 15% d'augmentation de cas sur une base hebdomadaire. Même si la moitié des 100 millions d'Égyptiens ont reçu au moins une dose de vaccin et que la population est jeune, la faible augmentation semble remarquable pour des analystes.
En bref, Michel, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël.
Un accord entre l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou et le parquet israélien, c'est ce qui se dessine, estiment plusieurs analystes. Le chef d'accusation de corruption serait supprimé, pas de peine de prison, mais Bibi renoncerait à la vie politique. Scepticisme de plusieurs commentateurs. Autre sujet, l'Iran recrute sur Internet des femmes israéliennes d'origine iranienne pour des missions d'espionnage. Le réseau des grands-mères, titre un quotidien, l'inspecteur Clouseau de Téhéran montre les difficultés de l'Iran à obtenir du renseignement en Israël, explique un expert israélien. Et à la une ce week-end, un tir à mie au sein de l'armée israélienne provoque la mort de deux officiers. Une enquête est ouverte. Cela se produit une semaine après l'accident d'un hélicoptère qui lui aussi avait fait deux morts. Et puis les médias ici, Eric, parlent de l'apparition de BA2, une sous-variante d'Omicron, elle serait beaucoup plus méchante.
Et pour terminer, la photo que vous avez retenue, Michel.
Eh bien, c'est la photo de Stéphane Melloul, un homme d'affaires français qui s'apprête à acheter Betar Jérusalem, le club de foot qui traverse une crise financière et aussi sportive. Son actuel propriétaire, Moshe Chogeg, a été placé en examen pour fraude, proxénétisme et autres crimes sexuels.
En tout cas, c'est bien de parler football en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI que vous pouvez réécouter sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous nous intéresserons aux nouveaux nomades, titre du dernier livre de Félix Marquard, « Le nomadisme, un acte fondateur de l'expérience humaine basé sur l'ouverture à l'altérité et donc l'exact opposé d'un hypothétique grand remplacement ». À demain donc, tout de suite, le journal de Raphaël Hérène.
Tout à l'heure,